Et notre invité ce matin dans le 8-30, direction les Aldos de Provence avec Daniel Margot. Bonjour.
Bonjour à vos auditeurs.
Alors, comment je dois vous présenter? Ancien, futur président de la Chambre de commerce et d'industrie du département?
Ouais, ou futur ancien, comme vous voulez, mais effectivement,
futur ancien.
Vous utilisez le mot de président.
Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Aldos de Provence. Tout d'abord, la crise Covid, on continue d'en parler. Il y a eu encore des annonces qui ont été faites par le gouvernement hier, par Olivier Véran, le ministre de la Santé. La crise Covid, on a passé le plus dur dans le département ou il y reste encore quelques challenges?
Alors, ça dépend si vous parlez de l'état sanitaire ou de l'état économique. Alors, sur l'état économique, oui, on a passé le plus dur puisque toutes les aides du gouvernement et toute la relance autour du plan de relance territoire d'industrie, par exemple, permettent aux entreprises d'avoir des carnets de commandes archi pleins. En revanche, on est confronté à deux sujets très importants. L'emploi, c'est-à-dire la ressource humaine que l'on a du mal à recruter. Et le deuxième problème, c'est l'inflation, c'est-à-dire le coût et le délai sur les matières premières qui peuvent bloquer un petit peu cette relance.
Alors, on va diviser tous les sujets hein, qui sont extrêmement intéressants, mais concernant la relance, ça a coûté de l'argent à l'État. Mais cet argent, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le mettre sur la table bien avant? Ça fait depuis des années que certains politiques, à l'image par exemple de Karine Berger, l'ancienne députée des Hautes-Alpes, disent « la relance, c'est aujourd'hui mettre de l'argent sur la table, investir massivement pour que la machine économique démarre et redémarre ». Finalement, il y a eu la crise sanitaire, cet argent il est mis sur la table. Est-ce qu'il aurait fallu le mettre depuis très longtemps?
Alors, je ne sais pas s'il aurait fallu le mettre depuis très longtemps. En tous les cas, on ne peut pas, et je ne fais pas de politique en disant ça, on ne peut pas critiquer. On a eu la chance d'avoir un gouvernement qui a été acteur, réactif, agile, et peu avant ou après, j'en sais rien, mais en tous les cas, cet argent, il est là. Il est utilisé par l'ensemble des entreprises pour investir ou réinvestir et pour assumer la croissance. Donc, arrêtons ces problèmes de avant ou après et cette polémique. Utilisons les mannes financières intelligemment qui sont mises à disposition par l'État et profitons-en pour relancer notre économie.
Alors, le problème de ressources humaines, le problème de main-d'œuvre, il est très souvent observé au sein de l'hôtellerie-restauration. D'où vient ce problème de main-d'œuvre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une envie de la population, des salariés, de faire autre chose que ce qu'ils faisaient déjà? Est-ce que la crise Covid a changé les mentalités professionnelles?
Je crois que vous avez tout dit. C'est pas une question, c'est une affirmation. Je pense que vous avez entièrement raison. Je rajouterai deux choses. Ce n'est pas que dans l'hôtellerie et la restauration. Vous prenez le monde de la saveur senteur, dont je suis dans le 04. On a pénurie d'opérateurs. Vous prenez le BTP, vous prenez les transports. Tout le monde aujourd'hui est en attente et recherche de la main d'œuvre qualifiée ou pas qualifiée.
Et alors, qui doit se remettre en question aujourd'hui?
Tout le monde. Tout le monde, mais je pense qu'il y aurait un réel débat à avoir effectivement sur la valeur travail et la valeur sociale. C'est peut-être pas bien ce que je vais dire et je suis pas certain que vos auditeurs l'entendent correctement, mais je pense qu'entre quelqu'un qui travaille et qui est 10% au-dessus du SMIC et quelqu'un qui bénéficie à juste titre de la solidarité et qui touche 800-900 euros, il va y avoir un décalage de 300-400 euros au final par mois. Et je pense franchement que ce n'est pas suffisamment d'écart pour remettre le monde au travail.
La valeur travail manque aujourd'hui. On ne valorise pas suffisamment le travail.
On ne valorise pas suffisamment le travail, mais ce n'est pas par une simple augmentation du coût horaire. Il faut le faire varier avec les charges sociales. Il faudrait que les charges sociales n'augmentent pas aussi vite que la rémunération du collaborateur. Et puis, il faut aussi donner, et vous l'avez dit tout à l'heure, du sens au travail. Je pense que la population au travail a changé un petit peu son logiciel. Les jeunes, comme les moins jeunes, veulent retrouver du sens au sein des entreprises, au sein de leur travail, et pas forcément que de productivité, de rentabilité. Redonner du sens et valoriser le travail d'un point de vue économique, en diminuant les charges sociales.
Alors l'inflation, Bruno Le Maire a été très clair, le ministre de l'économie, pour cette inflation, il a dit ça va se poursuivre et ça va se poursuivre jusqu'à la fin 2022. Est-ce qu'on aura les reins assez solides?
J'en sais rien. En tous les cas, ça va jouer sur la rentabilité des entreprises qui vont perdre en marge. Qui vont perdre en marge. Pour éviter cette perte de marge, ils vont sûrement augmenter leurs prix et ces prix vont se retrouver à un moment donné dans le caddie du consommateur que nous sommes tous. Et vraisemblablement derrière, les négociations sur les salaires vont être un peu plus compliquées et avec des revendications plus fortes et sûrement à juste titre entre partenaires sociaux, c'est-à-dire d'un côté les employeurs, de l'autre côté les collaborateurs à travers leurs représentants syndicaux.
Donc finalement, si je reviens à ma première question, la crise Covid, oui, on a passé le plus dur, on s'en est bien sorti, mais quand même, il va y avoir quelques séquelles qui vont rester.
Alors séquelles, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a du travail, effectivement.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les Alpes-de-Haute-Provence se soient mieux défendues dans cette crise sanitaire et dans cette crise économique ? Ça a été votre constat ?
Oui, alors il y a deux choses. Vous le savez bien, on est irrésistible, donc ça nous permet de mieux résister. Non, le deuxième axe, c'est qu'on a une agilité dans les Alpes-de-Haute-Provence au niveau des chefs d'entreprise, au niveau des pouvoirs publics qui font. On se connaît tous et ça fait que on travaille plus vite ensemble et on travaille mieux ensemble. Cette notion d'agilité et de partage privé public, c'est, je pense, qu'on a mieux résisté.
Alors, lors de votre premier mandat au sein de la CCI, vous le disiez, il y avait plusieurs enjeux. Il y avait la numérisation, le virage numérique que vous vouliez prendre, mais il y avait un autre enjeu. C'était explorer la voie des financements européens. Et je vous cite, avoir des projets, c'est bien, mais disposer des ressources pour les mettre en œuvre, c'est mieux. Alors, l'Europe, c'est la tirelire de la CCI du 04 ?
Non, c'est pas la tirelire de la CCI du 04, ça en fera partie. Aujourd'hui, les enjeux de ce nouveau mandat restent un peu les mêmes. Notre indépendance financière. Nous dépendons de la taxe de fonctionnement des chambres. À la fin de ce mandat, nous en sommes en dépendance à 42%. L'objectif que l'on se fixe pour les mois à venir, c'est de dépendre à hauteur de 25% de la TFC et donc d'avoir 75% de ressources propres. Et d'augmenter notre budget de façon à le passer de 4 millions d'euros à 5 millions d'euros.
Et comment on fait tout ça, cette bascule ?
Alors, on le fait sur deux axes qui vont être très forts. Nous allons nous engager fortement et nous souhaitons être les leaders de la formation professionnelle et le leader de la formation continue sur deux axes. Le tertiaire avec Sud Alternance Provence et les énergies renouvelables avec EcoCampus Provence. De façon à ce que on soit au cœur du système de la formation et sur ces axes de formation, effectivement, il y a de la rentabilité à trouver et de l'indépendance financière.
Et le deuxième axe ?
Et le deuxième axe, c'est de l'immobilier. Nous voulons étendre notre implication au niveau des territoires par l'achat de bâtiments qui permettraient d'accueillir des entreprises, start-up ou pas, à travers des loyers, on ferait, nous, de l'autofinancement et derrière, on toucherait les loyers qui nous permettraient d'avoir des revenus. Ces revenus, formation et immobilier, seraient réinjectés au profit de nos entreprises pour les accompagner dans leur développement.
Et avec une priorité pour elles ?
Pour les entreprises ?
Pour l'accompagnement, oui.
Ouais, on reste sur le numérique. C'est la crise Covid, comme les habitudes des consommateurs, de proximité comme éloignée, il faut que nos professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de l'industrie, des commerces de proximité soient au top du numérique. Il faut absolument que nous y travaillions et que nous accompagnions nos entrepreneurs sur ce sujet.
Et très rapidement, en 30 secondes, améliorer le numérique pour une entreprise, ça lui permet quoi ?
De faire du business.
De faire du business, de mieux se vendre à l'international, c'est toujours ça ?
Non, mais même en proximité. Aujourd'hui, les circuits courts se font peuvent et doivent se faire par le numérique. On n'est qu'à l'aube de ce que sera le numérique de demain pour les entreprises.
Merci beaucoup, Daniel Margot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-d'Haute-Provence. Les priorités pour la Chambre de commerce pour ce nouveau mandat, on l'a bien entendu, c'est faire du business avec plus de numérique et puis aussi être indépendant financièrement. Merci à vous d'avoir été l'invité.
Merci à vos auditeurs.